voix nue. Cette semaine, Pierre Chassagneux rencontre Martine Monteil. Ce soir, de la vie de commissariat au 36 Quai des Orfèvres.
Bonsoir Martine Monteil.
Bonsoir.
Hier, vous nous avez raconté vos années de formation à l'école des commissaires de Saint-Cyr au Mont-d'Or, près de Lyon. Dès le départ, vous êtes attiré par le terrain et l'action. Et une fois diplômé commissaire, vous choisissez Paris, la police judiciaire et une brigade territoriale, la 4e. Le premier jour de votre affectation dans cette brigade, il y a un immuable à tout policier qui débute, c'est la réception du matériel.
Ah oui, alors la réception du matériel, c'est pour tout policier. Lorsque vous êtes titulaire, on vous donne une arme, on vous donne un sifflet. Bon, vous avez votre carte, bien sûr. Et on vous donne aussi, alors c'était amusant à l'époque, parce que si on en parle aujourd'hui, ça doit étonner, on donne une clé pour ouvrir les avertisseurs de police. Vous savez, c'est ces espèces de bornes noires et blancs qui existaient, des mini colonnes Maurice qui étaient de ci de là sur les trottoirs. Et en fait, avec cette espèce de carré, vous pouviez ouvrir et appeler, police secours ou les choses comme ça, les clés d'avertisseurs.
Ce qui n'existe plus aujourd'hui.
Non, 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 bien sûr. Non.
En quoi ce premier poste fut beau pour vous, Martine Monteil?
C'est beau parce que vous êtes enfin titulaire, vous êtes un vrai commissaire dans un vrai poste. Donc là, j'étais numéro 3, c'est-à-dire chargé un peu de la voie publique, quoi. C'est le poste du jeune commissaire qui arrive en service, c'est-à-dire qu'il y a le grand patron, il y a son adjoint, et puis il y a le jeune commissaire qui vient d'arriver et qui, justement, va être celui qui va faire un peu le chien de chasse sur le terrain avec les hommes, les équipes, cornaquer un peu les affaires, quoi. Et donc, la 4e brigade territoriale, à l'époque, c'est le 11e, 12e arrondissement, 20e, donc c'est un beau territoire de chasse, quand même.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans votre brigade au moment où vous en prenez la direction, Martine?
Mais non, mais il y a pratiquement pas de femmes dans les services à l'époque. C'est aux mineurs où il y en a quelques-unes, parce que justement, c'est volontaire du fait. Mais ce sont plus des, entre guillemets, assistantes sociales que de véritables policiers. C'est plus tard qu'il y aura surtout, comme aujourd'hui, de vrais policiers dans ces services. Là, non. Il y a des secrétaires, vous voyez, administratives, mais pratiquement pas de femmes. Pas de femmes. D'ailleurs, là, il n'y avait pas de femmes, j'étais la seule.
Et comment se déroule l'accueil de la part de vos collègues masculins?
Alors, les hommes, au départ, ils vous regardent un peu comme, c'est oh là là, je vais être pas vulgaire, mais je veux dire, bon, ça y est, les gonzesses arrivent dans la maison, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Faut vous imaginer aussi que, bon, ces flics de terrain, de police judiciaire, c'est un peu des cow-boys, mais c'est pas péjoratif ce que je dis là. Enfin, bon, voilà. Ils sont baroudeurs, ils sont entre hommes, donc c'est un peu des guerriers. Donc, ils se disent, oh là là, qu'est-ce que viennent faire les bonnes femmes? Ils ont un peu peur que ça bouscule leurs habitudes, qu'il va peut-être falloir un peu corriger leur tenue, leur ceci, vous voyez, un peu leur façon d'être, enfin, voilà, que ça bouscule leurs habitudes. En fait, ils observent. Bon, ils sont polis, ils sont sympas, au départ, ils vous accueillent. Et pour peu qu'ils vous trouvent sympa, bon, moi, je suis assez liante, je suis gay, j'aime déjà ce métier sans en avoir fait beaucoup, donc je pense que ça se ressent. Je suis fille de flic aussi, bon, voilà, donc on se dit, tiens, bon, c'est un peu ce que c'est quand même que la maison, bon, bref. Et donc, j'y vais. Et ensuite, je vais vous dire ce qui se passe, c'est que, une fois que vous êtes avec eux, ils vous jugent sur le terrain, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire vos réflexes, votre façon d'être, si vous êtes là, les bras ballants, si au contraire, vous êtes comme eux, passionné, que vous avez de l'initiative, si vous entrez aussi dans votre rôle de patron, bon, ils ont conscience qu'au début, on est un jeune patron, vous voyez. Alors, vous avez le bizutage. Le bizutage, c'est aussi, une fois que la procédure est en cours, c'est par exemple de faire une grosse coquille dans une procédure, vous voyez. Bon, ils ont déjà pratiquement le PV tout prêt pour le changer, mais bon, position, est-ce qu'elle va le voir, vous voyez? Est-ce qu'elle lit nos procédures? Est-ce que ça va le voir? Il y a des fois des vieux tauliers nous disaient, oui, bon, ceux-là, ils s'intéressent pas, ils signent, ils se barrent. Alors moi, c'est pas mon style, justement. J'étais tellement gourmande, mais gourmande de tout, y compris la procédure, ça fait partie du jeu. Donc je lisais, et puis quand je vois la coquille, je dis, bon, allez, regardez les gars, on va recommencer ça. Bon, mais j'ai ri, j'ai pas cherché le coupable, j'ai pas. C'est de bonne guerre, non. Et puis bon, après, quand ils voient que vous tenez votre place, à mon niveau certes, mais que vous tenez votre place, que vous sortez avec eux, que vous partagez cette passion, que vous êtes capable de les défendre, que vous êtes capable aussi d'intervenir, c'est-à-dire quand même de dire bon, non, là, non, ok, non, je suis pas d'accord, pour telle raison, vous voyez. Et tout, bon, les choses se mettent en place en disant bon, tiens, voilà, bon, ça s'intègre bien. Au fond, après, ils oublient. Ils oublient. C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, les choses se passent comme ça au quotidien. Vous êtes là, bon, le matin, on arrive. Moi, j'ai toujours dans mes services, je prends le café avec eux, on discute de l'affaire. Et celle-là, qu'est-ce qu'il y a sur les écoutes, où on en est, vous voyez, bon, tout ça, voilà. C'est vivant, donc c'est une vie de famille, quoi.
Martine Monteil, vous écrivez dans votre autobiographie avoir rencontré 3 catégories de policiers. Quels sont-ils ? Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu avec l'humour qui vous caractérise ?
3 catégories. Disons que en police judiciaire, pour moi, le vrai policier, c'est le chasseur. J'ai toujours appelé un peu comme ça. C'est le chasseur. C'est le chien de chasse. C'est pas péjoratif. C'est le gars qui est toujours à l'affût, qui renifle, qui cherche, qui gratte. Vous voyez, c'est-à-dire, faut être curieux. Faut être curieux dans ce métier. Voilà. C'est-à-dire, c'est toujours en action. Pas hésiter à se dire bon, je suis parti par là, mais c'est pas bon. Je retourne, je repars de l'autre côté. Vous voyez, c'est-à-dire, jamais se décourager. Voilà, gratter. C'est ça. Enfin, moi, j'ai un peu ma nature aussi. Un jour, on m'a demandé qu'est-ce que vous choisiriez comme qualificatif majeur vous concernant. Je dirais un peu l'opiniâtreté. C'est-à-dire, j'aime pas caler. On ne cale pas, même quand on était en plein découragement. Vous voyez, c'est facile. Alors, c'est vrai qu'il y a des catégories qui disent ouais, bon, allez, c'est plié. De toute façon, il n'y a rien. Vous voyez, non, c'est pas plié. Il n'y a pas forcément rien. C'est qu'on a gratté à côté. Donc, on retourne, on recommence, on y va, vous voyez, etc. Bon, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus faits pour la synthèse, l'administratif ou des choses comme ça, mais qui ont leur rôle aussi à jouer. Hein. Je veux dire, les policiers, même en police judiciaire, ça n'est pas aussi que le terrain. Encore heureux qu'il y ait des gens qui acceptent de travailler sur toutes les informations qui sont énormes, si vous voulez, pour les trier, etc., et les travailler, quoi, voilà. Donc ça, c'en est une autre catégorie. Donc la troisième, j'avoue, je ne me souviens plus, mais vous allez me le dire, peut-être.
Vous vous sentez pas seul, parfois, au milieu de tous ces hommes ?
Je me suis jamais senti seul. Hein. Justement, je crois que c'est la caractéristique de la police judiciaire. C'est un métier de la police en général, mais enfin, en tout cas, beaucoup en police judiciaire. C'est un métier où on est entre nous, on fait corps. Ce sont des groupes. C'est pas un métier de solitaire. C'est pas du tout un métier de solitaire. Alors bien sûr, de temps en temps, vous avez la solitude du chef de service qui est en responsabilité dans des affaires graves avec des options à prendre. Et ça, c'est normal, vous l'assumez, c'est votre rôle. Mais sinon, vous vivez pour la cohésion de votre brigade, de votre service, de votre commissariat, de votre équipe. Enfin, vous voyez, peu importe la grandeur ou de votre direction même, hein, puisque j'ai été directeur et du quai des Orfèvres et ensuite de la direction centrale. Pourtant, c'est énorme, mais ça fait rien. C'est les vôtres, c'est votre grande famille. Il faut la préserver, il faut lui faciliter les choses, il faut trouver les budgets, il faut défendre, voyez, cette maison pour que tout aille bien, quoi, voilà. Donc vous avez un rôle à la fois protecteur et tout, voyez. Vous n'êtes pas seul, vous vivez et vous travaillez pour un ensemble d'hommes et de femmes.
À ce moment-là, Martine Monteil, vous avez 26 ans et peu de temps après votre début de carrière, vous êtes rappelée à la violence du métier que vous exercez, quand un commissaire de district parisien est blessé par balle, un collègue que vous connaissez bien.
Oui, alors ça, c'est un épisode qui est vraiment très fort. C'est-à-dire que je suis à la 4e brigade territoriale et souvent, je me baladais près du petit état-major, vous voyez, où la radio crépitait en permanence. Et puis tout d'un coup, vous savez, c'est... Pourtant, il n'y avait pas si longtemps que ça que j'étais dans ce métier. Mais déjà, vous avez l'habitude des sons de radio. Même si vous êtes loin dans votre bureau, vous voyez, vous entendez... Et là, on sentait que ça montait, les échanges étaient très forts, très vifs, très... Ouh, Alors je me rapproche, je dis, oh là, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, celui qui était en charge de la radio me dit, il y a je crois que c'est un flingage, c'est boulevard Voltaire, il y a quelque chose d'important, etc. Bon, je sais même pas s'il parle pas d'un policier, mais ils en étaient pas sûrs, quoi. Bon, c'était les premiers jets, voyez, premiers jets. Et donc, il y a l'équipe de permanence, et de toute façon, on décide, c'est chez nous, ça se passe chez nous, bon, faut y aller. Alors donc, on n'attend pas d'avoir des éléments, si vous voulez, hop, on enfile notre veste et hop, on part. Et puis, au fil du déroulé radio, si vous voulez, ben, on se rend compte que, en fait, c'est un commissaire et son chauffeur et tout. Et là, sur le district, ben, je comprends que ça peut être que mon futur mari, quoi. C'est tout. Là, je dis au gars, mais c'est dingue. Et c'est ça. Et effectivement, c'est lui. Et on arrive, c'est-à-dire que les secours sont venus, Dieu merci, d'ailleurs, très, très rapidement. Et nous, quand on arrive, pourtant, c'était pas si loin que ça. Et il y avait qu'une mare de sang, une paire de lunettes, etc. Et donc, je reconnais ces lunettes. Et il y avait des gens de la BRB qui étaient sur place. Donc, alors moi, évidemment, là, du coup, je suis le commissaire, bien sûr, du service. Mais bon, les gars, ils sont là pour l'enquête. Mais bon, c'est l'humain qui prime quand même, c'est-à-dire que l'ambulance était devant nous. Donc, il y a un de mes gars, gentiment, qui dit, bon, venez, hein, on suit l'ambulance, quoi. Bon, on y va. Donc, les enquêteurs sont restés sur place. Il y avait d'autres voitures sont arrivées. Et puis moi, j'ai suivi l'ambulance jusqu'à Beaujon. Mon futur mari donc a été pris en charge et Dieu merci, il a reçu une balle qui était juste à côté de la moelle épinière, donc à quelques millimètres près, ça aurait été beaucoup plus grave. Ses jours n'étaient plus en danger selon le médecin, mais on lui avait un pouce du pied qui était coupé et la clavicule, une balle qui était rentrée par la clavicule ressortie de l'autre côté, donc il a quand même été grièvement blessé. Son chauffeur, moins, il s'était réfugié dans le caniveau. En fait, je culpabilisais un peu parce que nous, on adorait le tir. Hein, donc, on faisait beaucoup de tirs à titre sportif. Et puis, en plus, on avait, outre nos armes traditionnelles, on avait aussi des carabines de précision et tout ça. Et j'avais une carabine, moi, que m'avait donné mon père. Et en fait, j'avais plus de goupillon pour la nettoyer. Et lui, il me dit, je passe devant l'armurerie, je m'arrête, je prends le matériel et voilà quoi. Et en fait, quand il s'avance, il est dans l'armurerie et il voit deux types qui achètent des munitions, mais du lourd quoi. Bon, il avait des sales gueules. Et là, c'est le manque d'expérience, évidemment. Bah, lui, il achète ce qu'il a acheté, il ressort, mais entre-temps, ce qu'il n'a pas remarqué, c'est que quand il est ressorti, les autres. Ils m'attaient et ils ont vu qu'ils se dirigeaient vers une petite voiture noire avec une antenne de police. Je veux dire, à l'époque, de toute façon, c'était pas écrit police dessus, mais tout le monde savait que c'était une voiture de police. Donc, en fait, lui, quand il dit avec son chauffeur, on va les contrôler, qu'il revient vers eux, eh ben, ils sont sortis de l'armurerie et boum, 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 ils ont défouraillé et ils ont tiré, quoi.
Quand on embrasse cette carrière administrative, est-ce que l'on est préparé à la violence inhérente que l'on peut y rencontrer ?
Non, mais on doit s'y attendre. Faut être psychologiquement, enfin c'est un métier où faut pas être trop fragile, quoi. Voilà, faut avoir un bon équilibre psychologique à tout point de vue. C'est-à-dire, il y a le risque, les risques qui existent, dont il faut avoir pleinement conscience. Et d'ailleurs, ce sont des risques, vous ne devez pas les faire prendre non plus à vos hommes. Vous voyez, c'est-à-dire quand on prépare une intervention. Il faut quand même envisager tous les risques. C'est-à-dire, bien sûr, que le but, c'est une belle arrestation, une belle prise, etc. Mais c'est aussi que tout se passe bien et qu'on n'est pas du monde au tapis, comme on dit. Je crois que ça, cette notion de risque, elle est inhérente au métier. Il faut l'intégrer, il faut l'avoir en tête, etc. Ensuite, cette violence, donc, qui peut être contre vous-même, contre vos hommes, elle existe aussi chez les victimes, c'est-à-dire c'est la vue des victimes, c'est-à-dire une scène d'attentat, une scène de crime, c'est d'une grande violence. Donc on n'est pas préparé à ça. Quand vous êtes à l'école de Saint-Cyr, on vous emmène à la morgue de Lyon pour vous montrer des cadavres. Bon, d'accord, alors au début c'est un cadavre bien propre, après c'est un moins propre, etc. Enfin bon, ça n'a rien à voir avec la vraie scène de crime, ça n'a rien à voir avec la scène d'attentat qui est une scène de guerre. Vous voyez, donc on n'est pas préparé à ça, Mais c'est là où, si vous avez le bon équilibre humain, psychologique, dans ce métier, ben, tout va bien. Vous l'absorbez. Ça ne veut pas dire que vous l'effacez. Hein, ce sont des scènes qui sont inscrites à vie dans vos mémoires, mais bon, vous l'absorbez, quoi, voilà.
Comment vous faisiez pour vous blinder, vous, psychologiquement, face à ces scènes d'extrême violence que vous avez pu rencontrer ?
On n'en fait rien. Hein. On peut, c'est comme un médecin, hein, où on est apte à le faire ou pas. Bon, moi, j'ai une collègue qui a démissionné à cause de ça, mais au tout début de la carrière. Hein, fort heureusement, elle a réalisé au tout début que non, cette violence-là, elle n'acceptait pas. Elle a des tas de choses qu'elle n'acceptait pas, vous voyez, je veux dire. Il faut savoir. Ou alors, si quelquefois, certains savent que la police judiciaire va conduire à ça. Donc, ils privilégient peut-être un service de renseignement ou un service différent. Voilà, bon, c'est possible aussi. On n'est pas obligé d'être forcément confronté dans la police nationale. Il y a des tas de métiers dans une seule immense direction, quoi.
Alors, à peine un an plus tard, vous êtes muté dans un commissariat de la capitale, celui du 7e arrondissement, dont vous prenez la direction. Pourquoi est-ce que vous changez si vite d'affectation ?
Alors là, je rectifie tout de suite. Je ne change pas si vite. On me change d'affectation. C'est-à-dire que, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, on vous faisait venir, le directeur de la police judiciaire vous faisait venir et vous dit, voilà, madame, vous êtes à tel endroit, vous allez à tel autre. Hein, vous êtes affecté là et hop, vous y alliez. Pas question de contester ou de discuter. C'est la règle. Voilà. Alors, c'est en fait... Il y avait un départ, ils avaient beaucoup hésité. Il faut savoir qu'à l'époque, la hiérarchie, ils étaient courtois, mais sans plus, quoi. Enfin, les femmes, pour eux, c'était un problème. L'arrivée des femmes était un problème. Était un problème, je considère, moi, plus de la part de la hiérarchie de l'époque que de la part des collaborateurs, si vous voulez. Enfin, ça, on le sait avec le recul. Avec le recul. Au début, vous vous en rendez pas forcément tout à fait compte. Vous le sentez un peu, mais... C'est surtout avec le recul que vous voyez bien que c'est comme ça. Donc, moi, ils avaient hésité, je l'ai su après, beaucoup hésité. Oui, on va mettre une femme commissariat, mais est-ce que la population va l'accepter ? Vous voyez, c'est, pour eux, c'était un problème de mettre une femme, c'est un maillon faible. Alors, du coup, ils ont cherché le plus petit commissariat de Paris, mais il était pris. Donc, on a pris le deuxième plus petit, quoi. Saint-Thomas d'Aquin dans le 7e, en disant, voilà, c'est la bourgeoisie, bon, ça va, il n'y a pas trop de vagues, c'est calme, etc. Bon, ça va aller, et tout. Et tout. Ah, je ne sais pas si c'était un si bon calcul, parce que c'est calme, mais c'est sensible, de ce fait. Parce qu'effectivement, il y a des personnalités et tout, et que bon, ça discute, et ça râle aussi beaucoup, etc. Donc, dans ce commissariat, il faut avoir, disons, déjà le gant de velours. Hein, c'est indispensable. Mais bon, moi, j'étais ravie. On me mettait dans un commissariat. De toute façon, vous savez, moi, j'étais tellement heureuse d'être en police judiciaire. Bon, bah là, je quittais un peu le terrain parce que je m'étais fait plaisir. En brigade territoriale, on avait fait des tas d'affaires sympas. Et là, je me retrouve dans un commissariat dont je ne sais rien. Enfin, je suis jamais allée, moi. Il y a des tas de trucs à faire dans les commissariats. Il y a des objets trouvés. Il y a aller mettre des cachets de cire sur les personnes décédées, les décès, etc. Enfin, quand vous êtes jeune commissaire, vous voyez, ces petits détails, ça, par exemple, à Saint-Cyr, on n'en les aborde pas forcément. En plus, il y a une spécificité parisienne, vous voyez. Parce que le quartier, par définition, c'est un quart de l'arrondissement, quoi. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle un quartier. Et donc, dans le quartier d'à côté, il y avait un collègue. Qui était vraiment très très sympa et qui m'avait dit, écoutez, aucun souci, lui, ça faisait longtemps qu'il avait fait, il faisait du commissariat, il m'a dit, si t'as besoin d'un truc et tout, bah ok, quoi. Bon. Et ben, j'avais donc une petite équipe, hein, on n'était pas très très nombreux, mais il y avait des petites affaires à faire, bon, c'était sympa, j'en garde un très bon souvenir.
Et est-ce que les infractions, les délits, les crimes que vous constatez ici sont différents de ceux que vous aviez traités par ailleurs, dans d'autres quartiers, répondant sûrement à d'autres sociologies humaines ?
Oui, alors il y a deux choses, c'est-à-dire par exemple là, en brigade territoriale, j'avais la moyenne délinquance, donc c'est déjà des affaires de la taille au-dessus. Là, quand vous êtes en commissariat, c'est les petites affaires, mais j'aime pas le mot petite, faut mettre des guillemets, c'est-à-dire que il n'y a pas de petites affaires. Pour celui qui est en face, qui est le plaignant, et son affaire, c'est forcément une affaire. Voilà. Et donc, c'est vrai que vous êtes un peu, moi je dis, en commissariat de quartier, on est plus juge de paix qu'autre chose. C'est-à-dire que vous avez les plaintes qu'il faut vraiment prendre. les gens se sont fait voler, cambrioler, etc. Donc il faut y aller. Mais vous avez aussi, bon, la petite mamie qui vient, qui vous raconte son histoire, et puis bon, vous vous dites, qu'est-ce que je vais en faire, quoi ? Parce que bon, hein, il n'y a pas réellement de délit. Il faut lui faire comprendre qu'on prend quand même acte de ce qu'elle nous dit, etc. Vous voyez, il faut y mettre un peu les formes, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Vous faites une main courante. Vous voyez, tout est un peu dans la gestion humaine aussi de votre population, quoi. Voilà. Alors, en plus, j'avais une population qui était très, très, très variée. Il y avait Gainsbourg, il y avait le Luron, donc il y avait... Puis il y avait des gens, des politiques aussi, il y a des gens célèbres. Bon, il y avait ce quartier, un quartier quand même très, très bourgeois, très riche et tout. Et donc, c'est amusant parce que j'ai eu affaire à eux avec plus ou moins de distance ou comme Thierry Leluron qui venait régulièrement parce qu'on lui piquait son permis de conduire. Il me prenait avec beaucoup d'humour. Alors donc, c'était toujours un moment de sourire. Alors, il y en avait une fin très touchante qui était... on avait la visite régulière de Jean Seberg. Donc c'est quand même pas banal, quoi, je veux dire. Et moi, je la connaissais pas, mais les gars du quartier, les fonctionnaires la connaissaient déjà. Elle était déjà venue, donc ils me disent faites pas attention parce que c'est plus tout à fait elle. Elle est là. Et alors, elle allait directement dans l'espèce de petit coin cuisine qu'on avait pour les jours de permanence, si vous voulez. Et elle nous préparait un chocolat ou un thé, enfin d'une façon un peu bizarre et tout. Elle parlait pas beaucoup. Enfin bon, c'était une femme un peu égarée. Alors elle avait toujours sa beauté, hein. C'était toujours une très belle femme, mais c'est avec un regard complètement vide, effectivement. Et en général, peu de temps après, on voyait arriver Romain Gary, qui venait la chercher, quoi, bon, qui l'emmenait doucement. Enfin, vous voyez, donc c'était une espèce d'épisode comme ça. Et bon, on le savait, donc... je sais pas ce qu'elle venait chercher, peut-être...
Chaleur humaine,
j'en sais rien, comme elle était bien accueillie, qu'on avait beaucoup de douceur avec elle, il n'y avait pas de raison d'ailleurs et tout, voilà. Bon, ça c'est un épisode, il y en a eu d'autres, il y a eu des gens, ça arrivait d'une façon plus conquérante, enfin voilà, bon, ça dépendait des...
Comme qui, par exemple ?
Je ne veux pas citer de nom en particulier, mais vous savez, quelquefois, des personnes... Justement, c'est là où, dans ces commissariats, il faut avoir ce fameux gant de velours, parce que sinon, le ton monte assez facilement. Moi, j'avais toujours l'habitude, quand j'entendais ce qu'on appelait le bafflant à l'époque, c'est-à-dire le guichet d'accueil, quoi, que le ton montait, je me dis, bon, allez, il faut y aller. Parce qu'en face, le fonctionnaire, des fois, vous voyez, ça a monté en pression et voulait, bon, lui, il y avait la règle, le règlement, le ceci, et l'autre en face, il comprenait pas ça, et le ton monte, alors, quelquefois, mais moi, je suis, vous savez pas qui je suis, et tout, bon, alors moi, j'arrivais, donc, j'aimais monsieur, bonjour, je me présente, voilà, et tout. Alors, d'ailleurs, c'est extraordinaire, c'est quelquefois, quand je disais, je suis le patron du service, ça calmait, en fait, tout de suite, mais ça calmait pas, parce que j'avais dit, je suis le patron du service, je crois que ça calmait surtout, de dire, quoi. Elle, c'est quand ça, elle, le patron, vous voyez, parce que s'il se disait, mais c'est pas possible, c'est pas une femme, normalement, il n'y a pas de femme, vous voyez. Alors il y avait cette espèce de côté comme ça, et hop, c'est fini. Bon, alors je dis, monsieur, c'est quoi, vous souhaitez quoi, et tout. Bon, j'arrondissais les angles, et ça se passait bien, quoi.
Vous en jouiez un peu, alors, peut-être, du coup.
Oui, d'une façon, en fait, naturelle, puisque c'était la vérité. Voilà, donc.
Au cours de cette période, Martine Montaille, vous retrouvez un petit peu la presse qui, depuis l'affaire de l'étrangleur des parkings, dont vous aviez recueilli les aveux, vous affuble du surnom de shérif du 7e arrondissement. Comment est-ce que vous découvrez cela et surtout, comment est-ce que vous réagissez ?
La presse me suit, là. C'est un fait. C'est-à-dire qu'à partir de à chaque fois que je change de service, au fond, bah, ils sont là. C'est-à-dire que là, encore une fois, c'est pour eux, c'était la première fois, ce qui était vrai, là, qu'on mettait une femme en commissariat de quartier. Et donc, ils m'ont baptisé, oui, comme vous dites, le shérif de Saint-Germain. Je crois qu'ils avaient titré encore François. Bon, rien. Bon, le papier n'était pas offensant, n'était pas méchant. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est-à-dire que je suivais mon chemin. Donc, c'était un peu pour faire savoir aussi. Alors, toute l'ambiguïté, d'ailleurs, de notre direction était de craindre un peu notre arrivée dans les services, comment les effectifs vont le prendre, comment la population va le prendre, et en même temps de se dire, bon, ce que voulait la politique de la police nationale, du ministère de l'Intérieur, c'était de dire, il faut quand même que les femmes entrent dans la police, enfin, c'est l'avenir, il faut aussi, voilà, s'ouvrir et tout. Donc, il fallait aussi le faire savoir. Donc, c'est ça aussi, c'est-à-dire que je devais quand même, c'est-à-dire que là, c'est pareil, moi, je choisissais pas, on me disait, il y a tel journal, éventuellement, il faut répondre à telle interview, etc. Vous voyez, on n'avait pas vraiment le choix.
Et puis un beau jour, le téléphone sonne, on est en 1982, et on vous appelle pour vous proposer le poste dont rêve tout policier, le 36 quai des Orfèvres. C'est d'ailleurs ici que vous avez choisi que ces entretiens se déroulent. Qu'est-ce que ce lieu représente pour vous, et d'une manière plus générale, pour tout policier ?
Alors, bon, ça paraît un peu basique, c'est un lieu mythique, il est devenu mythique, mais pas seulement par les admirables policiers qui ont habité cette grande maison, mais c'est aussi par, évidemment, la nature et la qualité, évidemment, des affaires, si vous voulez, qui s'y sont déroulées, quoi. Alors effectivement, moi je suis dans mon deuxième commissariat, c'est-à-dire dans le 12e arrondissement, c'est-à-dire qu'on, j'ai fait mes preuves dans le premier, donc on m'en donne un plus grand, plus populaire dans le 12e arrondissement, et les choses se passent plutôt bien. Et un jour, donc, en fait, c'est un Marcel Morin, vraiment un grand flic, un grand patron de la police judiciaire, donc qui à l'époque est patron de la brigade des stupéfiants et du proxénétisme, et qui demande à me faire venir, parce qu'en fait, dans son service, il a trois commissaires, et en fait, il en veut un quatrième, parce que, en matière de stup, il pense qu'il faut une formation aussi pour les policiers. C'est-à-dire qu'il considère, lui, pas ceux bien des stups, bien sûr, parce qu'eux, ils sont formés sur le tas, mais les autres, ceux de sécurité publique, si vous voulez, qui sont au quotidien, qui ramassent des toxicos, des petits dealers, etc. Et avec quelquefois un peu des maladresses dans l'intervention, dans l'interpellation, donc des procédures qui peuvent être annulées. Donc il souhaiterait avoir un commissaire qui va, si vous voulez, participer à cette formation, tout en étant, bien sûr, dans le service de la brigade des stups. Alors, comme d'habitude, moi, petit soldat, OK. Le directeur, d'ailleurs, me convoque pour me dire, voilà, on vous affecte à la brigade des stups, je vous préviens, vous en prenez pour au moins 5 ans. Bon, d'entrée, c'est dit, en fait, j'y resterai 7 à des niveaux différents, parce que c'est une brigade spécialisée. Et donc, il vous faut, vous aussi, être aguerri, rodé, etc. Voilà. Donc, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'intègre cette brigade. Donc, je vais y faire, effectivement, de la formation pour notamment les gardiens de la paix. Mais en même temps, je suis sur le terrain avec tous les gars des stupes. Je découvre... toujours pareil, ce même esprit de famille, ce même esprit de groupe, cet esprit de PJ, quoi, ces baroudeurs, je sors avec eux, donc c'est extra, quoi. C'est une vie qui passe à 200 à l'heure, voilà.
Merci Martine Monteil, on se retrouve demain, ici, au 36 quai des Orfèvres, où votre carrière va prendre un tournant unique en son genre, puisque vous allez devenir tour à tour la première femme à diriger les plus grandes brigades centrales de la police judiciaire.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pierre Chassagneux avec Martine Monteil. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Marc Garvenès, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.